Bonjour tout le monde, bienvenue, c'est le débat de midi. Et les amis, j'ai un défi aujourd'hui. Réussir à faire une émission claire sur un sujet ultra technique, j'ai nommé la finance. Alors moi, la première, je vous le dis, les obligations, les fonds d'investissement, tous ces machins, c'est pas vraiment mon truc à la base. Un jargon qui paraît loin de nous et de notre quotidien, mais nous sommes tous concernés. À votre avis, votre épargne, elle roupille dans des petits lits préparés par les banques et les assurances? Vous allez me dire que vous n'en savez rien, puisqu'avoir des infos sur nos placements est digne d'une mission impossible. Mais tout cet argent circule, s'injecte et devinez dans quoi la majorité du temps? Dans des projets qui font la part belle aux énergies fossiles, indésirables pétrole, gaz et charbon si on veut limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré. Pourtant, les acteurs du secteur nous parlent tous depuis quelques années de la finance verte. Priorité aux projets vertueux pour la planète. Les financements sont en forte hausse, certes, mais restent minoritaires, loin des discours affichés, et le tout sans véritable réglementation. Je pose donc la question, la finance peut-elle vraiment être verte? On est ensemble jusqu'à 13h.
Camille Cronier, le débat de midi, sur France Inter.
Et j'attends, amis auditrices et auditeurs, vos questions, comme toujours, sur l'application France Inter, par mail et sur Twitter, avec le mot-clé « débat de midi ». Et il y a 4 invités avec moi en studio aujourd'hui. Bonjour Aurita Zoulet.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la finance durable chez Natixis. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous dire ce qu'est Natixis et en quoi consiste concrètement votre poste?
Natixis, c'est ce qu'on appelle la banque de grande clientèle du groupe BPCE, Banque Populaire et Caisse d'Épargne. Et chez Natixis, je m'occupe de finances vertes et durables, ce qui consiste à financer et investir dans des entreprises ou des projets dont le bénéfice environnemental ou social est à la fois mesuré et un vecteur de décision.
Bonjour Lucie Pinson.
Bonjour.
Vous êtes fondatrice et directrice générale de l'ONG Reclaim Finance, lauréate Europe l'an dernier du prix Goldman pour l'environnement, qu'on a tendance à présenter comme le Nobel de l'environnement. Votre travail à vous, donc, c'est de scruter ce que font les mastodontes de la finance?
Oui, tout à fait. À Reclaim Finance, déjà, nous menons beaucoup de recherches pour comprendre et voir ce qu'il y a derrière les discours portés par les acteurs financiers, que ce soit des banques, des assureurs ou des investisseurs. Donc, on mène des recherches sur le lien, notamment entre finance et climat, pour également trouver et proposer ensuite des mesures à appliquer au niveau de ces établissements pour aligner leurs activités sur les objectifs climatiques internationaux. Et puis, bien entendu, une fois qu'on a fait ces recherches, il faut rencontrer les acteurs financiers pour les convaincre de changer. Malheureusement, ça suffit rarement, donc on passe au plan campagne. Nous menons aussi des campagnes pour mettre la pression sur ces acteurs et les contraindre à modifier leurs activités.
Et on va largement en parler, évidemment, dans l'heure qui vient. Bonjour à vous, Julien Le Fournier.
Bonjour.
Vous êtes un ancien de la finance, co-auteur d'un livre écrit avec Alain Grandjean qui s'appelle « L'illusion de la finance verte » aux éditions de l'Atelier. Titre éloquent, il n'y a pas de point d'interrogation, je le précise.
Non, c'est plutôt une démonstration, en effet.
Bonjour enfin à Benoît de Juvigny.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général de l'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers. Quel est le rôle de l'AMF?
Alors l'AMF, c'est une autorité publique indépendante dont le rôle est de veiller au bon fonctionnement des marchés financiers. Ça veut dire aussi de superviser, de réguler les acteurs des marchés financiers. Ça veut dire aussi de plus en plus de veiller à l'application de règles du jeu, ces règles du jeu étant maintenant quasi intégralement définies au niveau européen.
Alors, si on fait cette émission aujourd'hui, je le disais en introduction, c'est parce que le sujet nous concerne tous, même si on ne le sait pas forcément. Qui peut du coup nous expliquer en quoi ce sujet de la finance verte nous concerne, justement, nous qui ne sommes pas du Sérail? Qu'est-ce que ça a à voir avec notre quotidien, Lucie Pinson?
Ça a à voir à notre quotidien, puisqu'on est dans un contexte d'urgence climatique. On a 9 ans aujourd'hui pour changer radicalement les moyens de production et de consommation. Et bien entendu, cette transition va nécessiter énormément d'investissements pour développer des activités qui sont compatibles avec une trajectoire climatique qui est viable.
Mais ça concerne notre épargne,
c'est ça? Et donc, bien entendu, puisque les acteurs financiers, ils peuvent choisir entre financer ces activités nécessaires à la transition ou au contraire continuer à financer le monde d'hier, le monde qui alimente le chaos climatique. Et ça, bien entendu, c'est lié aux investissements et à l'épargne des particuliers, pas que, mais bien entendu, l'épargne des particuliers va se retrouver dans les fonds qui vont être orientés vers un modèle ou l'autre.
Pourquoi c'est si difficile à comprendre? Ça paraît comme ça, très nébuleux, très technique, Julien Le Fournier, ce monde de la finance.
Je pense que les gens connaissent très très peu la finance. Donc effectivement, c'est très difficile pour eux de faire la part des choses. Donc je voudrais prendre peut-être un exemple pour faire comprendre, qu'il ne soit pas issu de la finance. En France, il y a des usines qui ferment, non pas qu'elles soient pas rentables, mais elles sont pas suffisamment rentables. Donc la rentabilité, c'est clé évidemment dans l'économie financiarisée qui est la nôtre. Donc de même, il y a des projets verts qui sont pas réalisés parce qu'ils sont pas suffisamment rentables. Parce qu'un projet vert, ça coûte. Il y a un surcoût, il y a une prime verte à payer. Si on déverse des boues rouges dans les calanques, c'est pas parce que les gens sont méchants, mais ça coûte de l'argent de faire autrement. Et vous pouvez prendre absolument n'importe quel exemple. La semaine dernière, ArcelorMittal disait que la décarbonation de leur seul site de Dunkerque coûterait 5 milliards d'euros. Les gens le savent, ça, intuitivement. Quand ils achètent du bio, ils payent plus cher pour ne pas avoir de pesticides qui sont déversés dans le sol et, in fine, dans leur organisme. Donc, ils ont les gens qui achètent du café équitable sont prêts à payer 30% plus cher le café pour avoir un service supplémentaire qui est que les petits producteurs puissent vivre dignement de leur travail. Donc, vous prenez un véhicule électrique, il est plus cher qu'un véhicule à moteur thermique aujourd'hui.
Et dans la finance, alors ?
Alors, j'arrive. Donc, l'acheteur bénéficie d'une prime de l'État ou de la région, il y a un reste à charge pour lui. Mais quand il va voir son banquier, le banquier lui propose strictement les mêmes conditions qu'il achète le véhicule propre ou le véhicule polluant, en réalité. Mais in fine, si jamais l'acheteur se décide pour le véhicule propre, le banquier donnera un petit coup de tampon sur son prêt en l'appelant prêt vert. Donc c'est un peu tautologique, mais ça provoque aucune incitation et aucune accélération. Et donc, comme le disait Lucie, la clé, c'est de favoriser finalement la transformation du brun en vert. Et ça, c'est absolument pas ce que fait la finance verte, en réalité.
Aurite Azoulay, vous n'êtes pas d'accord avec ce que vient de dire Julien Le Fournier?
Non, je suis pas d'accord parce que, d'abord, il existe des produits qu'on appelle à impact, donc dont le taux d'intérêt varie en fonction de la performance environnementale ou sociale des emprunteurs, que ce soit des particuliers ou, et c'est plus répandu chez les entreprises. C'est la première chose, c'est que le secteur financier s'implique pour supporter cette transition et pour justement inciter les différents acteurs à y aller. Et la deuxième chose, c'est que la différence entre hier et aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui on regarde, mesure, publie et pilote la performance environnementale et sociale de justement des financements et des prêts qu'on accorde.
Et ces produits verts là dont vous parlez, dont parlait aussi Julien Le Fournier, Benoît de Juvigny, quand on est là, je me mets à la place pour commencer, à la place d'un citoyen, je me mets pas à la place d'une entreprise. Est-ce qu'on a accès à des informations pour savoir ce qu'il y a derrière ces produits verts et s'ils sont vraiment verts justement?
Oui, il y a de plus en plus d'informations qui est disponible, mais c'est vrai que c'est compliqué et c'est vrai qu'il y a beaucoup de marketing. Et c'est ça qui souvent déçoit les investisseurs, c'est que derrière ce marketing, il faut essayer de soulever le capot et de regarder ce qu'il y a vraiment de contribution à la transition énergétique dans ces produits. Et nous, à l'AMF, depuis un certain... C'est aussi très récent, toute la finance verte. C'est aussi la complexité du sujet. On a des nouvelles règles du jeu, il y en a encore beaucoup qui sont devant nous et qui petit à petit rentrent en vigueur. Donc on est encore vraiment à un stade embryonnaire, il y a encore énormément de progrès à faire. Mais après, souvent, c'est le marketing qui a pris le dessus et on vend à un client particulier quelque chose avec un slogan vert où, quand on regarde ce qu'il y a derrière, il n'y a pas grand-chose de vert. Et c'est une de nos missions, nous, à l'AMF, sur laquelle nous avons beaucoup œuvré, c'est d'essayer d'améliorer cette communication, ces publicités à l'égard du grand public, notamment quand ils investissent dans des fonds d'investissement, pour qu'ils comprennent mieux ce qu'il y a derrière.
Alors justement, on va écouter le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui a dit entre autres que la finance sera verte ou ne sera pas, et voici son argumentaire.
La finance est le nerf de la guerre climatique. Il faut donc utiliser cet instrument pour obtenir de meilleurs résultats. Il faut aller plus vite, plus loin, plus fort. Je vois bien qu'il y a des doutes qui persistent. Je vois bien les critiques ici ou là. Est-ce que dans le fond, votre finance verte, ça n'est pas du greenwashing ? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous donner bonne conscience, mais après tout, les résultats ne sont pas là ? Nous ne pouvons pas écarter d'un revers de main ces doutes et ces inquiétudes. Chaque épargnant doit savoir si sa banque et son assureur tiennent leurs engagements. Chaque épargnant doit avoir l'assurance que chaque euro qu'il place en voulant qu'il soit placé pour un financement vert soit effectivement, réellement, pour un financement vert. C'est une question de confiance, c'est une question de crédibilité. Il n'y a pas de place pour le greenwashing dans la bataille que nous menons pour le climat.
Julien Le Fournier, une réaction ?
Oui. La moitié de ce qui dit, de ce que dit le maire est vrai, l'autre moitié est complètement fausse.
Alors la moitié vraie du ministre de l'économie.
La moitié vraie, c'est que ce serait bien de mettre la finance à contribution, en effet, parce que s'il n'y a pas de réallocation d'actifs, il se passera rien. C'est ce qu'on constate aujourd'hui. Il faut savoir que c'est une tautologie. Toute l'épargne, c'est tous les investissements. Et le GIEC nous dit qu'on est sur une trajectoire à 3,5-4 degrés. Cherchez l'erreur. Donc ça, c'est la partie juste. La partie fausse, c'est d'ailleurs de se focaliser sur ce qu'on appelle le fléchage vers des projets verts. C'est très important, mais c'est pas suffisant. On n'est pas dans les tontons flingueurs. On peut pas dire le prix s'oublie, la qualité reste. Le prix en finance, c'est essentiel. Donc là, je veux rebondir sur ce qu'a dit Rita Zoulay. Donc, en nous parlant de produits où il y a des modifications de prix en fonction de critères ESG.
De l'impact,
oui. Alors d'abord, ça, c'est pas du tout les obligations vertes. Aujourd'hui, une entreprise qui émet une obligation verte.
Alors attendez, une obligation verte, petit point vocabulaire.
Oui.
C'est quoi ? C'est une sorte de bon d'achat, un emprunt pour financer des projets.
Si vous voulez, une entreprise a deux manières de se financer. Soit elle tape une banque. Ça s'appelle du financement intermédiaire par les banques. Soit elle fait appel directement au marché en vendant un titre qui est acheté par d'investisseurs qui lui procure des liquidités. Ça s'appelle une émission d'obligations.
D'accord,
c'est un moyen de se financer sur les marchés. Donc aujourd'hui, une entreprise qui émet une obligation verte paye exactement la même chose que si elle émettait une obligation normale. D'accord, il n'y a aucun avantage comparatif à le faire. Donc quand vous voyez dans la presse tant de tonnes de CO2 évitées grâce à l'obligation verte de l'entreprise ABC, vous pourriez lire la même phrase avec « grâce à l'obligation tout court ». L'adjectif vert ici n'apporte strictement rien.
Lucie Pinson, pour compléter peut-être ?
Pour compléter et peut-être revenir un tout petit peu en arrière, parce que c'est vrai que dans le discours de Bruno Le Maire, on entend la nécessité, soulignée après par Julien Le Fournier, de donner, être plus transparent sur ce qu'on va trouver dans notre épargne et ne pas mentir. C'est également le rôle en effet souligné de l'AMF, de faire en sorte que le marketing ne soit pas trompeur et qu'on ne fasse pas croire aux épargnants qu'on a des fonds qui vont changer la planète, alors que c'est pas le cas. Ça, c'est le débat peut-être pour après. Déjà, pour revenir sur au tout début, la finance, quelque chose que Bruno Le Maire dit souvent aussi, c'est que la finance doit être verte ou ne sera pas.
Oui.
Et ça, c'est vrai d'une certaine manière, puisque le dérèglement climatique soulève des risques majeurs pour les acteurs financiers, et donc ils ont intérêt à terme à se transformer.
Quel risque ?
Des risques liés à la transition, des risques peuvent être physiques, si vous êtes un assureur et en effet que vous avez des actifs qui sont délabrés parce qu'il y a eu une catastrophe climatique, là l'assureur va devoir mettre
L'urgence climatique coûte très cher aux
assureurs. Tout à fait, on sait qu'un monde à 4 degrés n'est pas assurable, il y aura des poches d'inassurabilité qui vont se développer dans le monde, il y a des actifs qui vont se déprécier, etc.
Donc ils ont ils n'ont pas le choix.
Ils ont intérêt à agir. Maintenant, la question c'est qu'il y a des produits qui se développent et tout n'est pas à jeter. Il y a des choses qui se développent, notamment au niveau de Natixis, du Green Weighting Factor, qui favorise le financement de certains projets plus verts que d'autres. Ça, c'est des bonnes choses. Malheureusement, c'est que tous ces produits-là, ce qu'on met sous le nom de finance verte, ne reste qu'une petite goutte d'eau par rapport au reste et surtout, n'empêche pas les acteurs financiers aujourd'hui de continuer de financer les activités d'hier et les opérateurs comme Total, comme Shell, comme Eni, qui développent de nouveaux projets d'énergie fossile qui, eux, vont émettre des émissions qui seront là pour durer.
Rita Zoulay, est-ce que Bruno Le Maire en parlait et par rapport à ce que dit Lucie Pinson, Natixis et d'autres, évidemment, mais vous représentez Natixis, fait du greenwashing parce que le climat est aussi un atout marketing. Il le disait d'ailleurs Benoît de Juvigny tout à l'heure.
Alors je vais juste être assez directe, c'est mon job de pas le faire.
Donc de pas faire de greenwashing,
d'assurer qu'il n'y en ait nulle part dans le groupe et que les produits qu'on vend résistent à ce risque-là. Ce sur quoi j'aimerais revenir si c'est possible, c'est la notion de finance verte parce que elle est protéiforme.
Donc elle ne parle pas que d'obligations vertes, elle parle de cette logique qui consiste à intégrer les problématiques environnementales et sociales. On dit souvent finance verte, mais on pense vert et durable, donc il y a aussi le volet social qui est intégré, dans des financements ou des investissements. Et ça peut revêtir deux grandes formes, et j'appellerais ça les deux jambes de la finance verte. C'est financer le vert, et on pourra revenir sur les questions.
Mais ça, pardon, Lucie Pinson vient de le dire, il y a du financement de vert, mais pas suffisant par rapport au financement brun dont on parlait.
Et surtout, quand même, la TIC6 a augmenté ses financements aux énergies fossiles et aux entreprises qui développent de nouveaux projets fossiles depuis que l'accord de Paris a été adopté. Donc ça, malheureusement, ça ne sera pas compensé par le financement de projets verts à côté.
Alors Rita Zoulé.
Ouais, si je peux justement parler de la deuxième jambe de la finance verte, c'est ce qu'on appelle le financement de la transition. Et le financement de la transition, ça appelle une méthodologie extrêmement forte. Et cette transition, les objectifs internationaux, notamment de l'accord de Paris, ne seront pas atteints si on laisse sur le bas-côté les industries carbonées. Et notre job en tant que financeur, c'est bien de savoir accompagner les acteurs qui sont engagés dans une démarche de transition. J'insiste sur le « qui sont engagés ».
Alors, Benoît de Juvigny, vous entendez ça? Est-ce que vous avez la main à l'autorité des marchés financiers sur justement des financements bruns, donc on dit brun pour opposer à vert pour les énergies fossiles, qui sont trop importants par rapport aux financements verts?
On n'a pas la main au sens où c'est pas nous qui décidons. Par contre, on a la main de plus en plus pour forcer les acteurs à être plus transparents, à mieux communiquer et à mieux faire comprendre après aux investisseurs, surtout aux investisseurs professionnels, aux gérants d'actifs en particulier, mais aussi aux particuliers s'ils veulent investir directement. Je voulais revenir aussi sur les obligations vertes qui ont été évoquées par Julien rapidement. C'est vrai qu'aujourd'hui, les obligations vertes, d'abord, c'est pas grand-chose, hein, c'est environ 3% des émissions obligataire tout compris. C'est vrai que le fléchage qu'on a sur des projets est encore assez largement approximatif. C'est vrai que la prime de rendement pour avoir un meilleur rendement en matière de projets verts, pour que ça coûte un peu moins cher à l'entreprise, il existe, mais il est très très limité et il va pas fortement changer les choses. Donc tout ça, c'est aussi des limites à ces produits obligations vertes. C'est d'ailleurs pour ça que la Commission européenne, il y a 8 jours, a annoncé un projet un petit peu plus ambitieux en matière d'obligations vertes pour forcer un meilleur fléchage sur des projets, pour forcer
mais par exemple, pardon,
la
Benoît,
taxonomie, le fait que les activités qui vont être financées soient davantage vertes et respectent ce qu'on appelle la taxonomie européenne.
Mais est-ce que ce que vous dites est compatible avec ce genre de publicité? Alors, je l'ai dans les mains pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est une publicité qui circulait dans Le Monde et dans Télérama, dans plusieurs magazines et journaux à l'hiver dernier de BNP Paribas en l'occurrence. Donc on va expliquer, il y a écrit « Pour accélérer la transition, changeons la nature de l'épargne ». Il y a une photo de montagne avec une crête et la courbe de la croissance de l'épargne qui épouse la crête. Est-ce que ça, par exemple, aujourd'hui, et je vous fais une autre pub, je ne sais pas si vous êtes passé devant Radio France, il y a un arrêt de bus juste en bas de la maison de la radio, avec cette jolie pub pour le Crédit Mutuel qui vient de sortir. Carte bleue du Crédit Mutuel, moins d'encre sur notre carte blanche en plastique recyclé, c'est tout simple et c'est plus écologique. Est-ce que ça, aujourd'hui, Benoît de Juvigny, ça peut encore circuler autour de nous, dans les magazines et dans la rue?
Ce sont plus des publicités institutionnelles. Je suis complètement d'accord avec vous en termes de marketing. Elles sont excessives et je ne les aime pas. Mais par contre, nous, ce que nous veillons surtout, ce sont sur les produits, les fonds d'investissement. Et sur ces fonds d'investissement, nous commençons à faire le ménage pour éviter que quand vous achetez un fonds d'investissement dans une de ces banques, ce type de manœuvre ne soit plus autorisé.
Julien Le Fournier, rapidement.
Oui, rapidement. Juste pour rebondir sur ce que disait Benoît et ce que disait le ministre, donc le fléchage vert, c'est un point très important. Mais s'il n'y a pas le prix, s'il n'y a pas un différentiel entre brun et vert, on n'a rien fait. Mais c'est important. Mais c'est du greenwashing de premier ordre. Il ne faut pas oublier le greenwashing systémique, en fait. Il faut regarder les flux et l'ensemble. Mais pour revenir sur ce que disait Aurit, donc elle nous parlait de produits qui incorporent des petits différentiels de prix. Alors, faut savoir que c'est un pouillème de la marge, hein, donc c'est complètement à la marge. Mais que là, du coup, par rapport à ce que disait le ministre, c'est qu'il n'y a plus de fléchage. On est le nouveau format à la mode, que ce soit pour les prêts ou les bonds. Ça s'appelle sustainability linked, et donc c'est lié à la soutenabilité. On lit ça à des indicateurs de performance, etc. Alors là, on finance plus du tout des projets verts. C'est ce qui a permis à Total d'annoncer que, à présent, 100% de sa dette serait émise sous ce format-là. Est-ce que vous, Aurite,
alors, on va laisser Aurite Azoulay vous répondre dans un instant. D'abord, je vous lis un message d'un auditeur qui nous décrit comment les banques peuvent-elles faire de la finance verte quand les fonds propres sont à plus de 80% constitués par des produits financiers liés aux énergies fossiles. Je vous laisse y réfléchir. La finance peut-elle être verte aujourd'hui dans le débat de midi? Émission réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée par Colin Gruel et Sophie Perwaguet. Et c'est Arnaud Caillet qui est à la technique.
De mon cœur tu tombes, dis-moi si tu sais te tenir à ton ombre, te tenir à leurs idées. C'est la peur qui gronde, dis-moi si c'est vrai qu'on a cassé le monde, qu'on a le dernier ticket. Mais toi t'auras ton style comme Kylian Mbappé, et tu seras libre si t'es pas fatigué. Tu feras pas de tigre ni de gens s'aimer. Ils étaient trop fragiles, ils l'ont dit à la télé. De mon cœur tu plonges, dis-moi si tu sais compter les secondes sans tomber dans l'abîme. C'est la peur qui hurle qu'il te faut susurrer pour te faire entendre sans trop te faire remarquer. Mais toi t'auras ton style comme Kylian Mbappé, et tu seras libre si t'es pas fatigué. Tu feras pas de tigre ni de gens s'aimer. Ils étaient trop fragiles, ils l'ont dit à la télé. Qu'il arrive, toi au moins tu sais, tout ça tient qu'à un fil qu'on a mal déroulé. Tu sais, c'est la honte qui me sert de papier. J'ai dessiné ta tombe avant même de te bercer. Et si ça résonne, et si demain te plaît, faudra que tu pardonnes, on était fatigué. Et si ça résonne, et si demain te plaît, faudra que tu pardonnes, on était fatigué.
Et vous aurez reconnu la voix de Julien Doré avec Kiki.
Le débat du midi. Sur France Inter.
Oui, Total va être vert avec des barils noirs, parce que c'est des barils noirs, c'est le présent, et des barils qui gèrent le cash flow, qui me permettent d'ailleurs de continuer à verser les dividendes. Je ne vais pas remplacer du jour au lendemain les 15 milliards de dollars de cash flow que génère l'exploration-production simplement par quelques mégawatts d'énergie renouvelable. C'est juste pas possible. Nous avons besoin de ces revenus sortis des hydrocarbures. Donc nous n'allons pas y renoncer. Je suis pas très favorable à la radicalité. Je pense que nous devons accompagner l'évolution de la demande. Le monde a besoin de pétrole. Donc dire que nous arrêtons tout, la réponse est non. Je pense que ça serait une erreur de notre part, notamment cela nous priverait encore une fois des cash flows dont nous avons besoin pour construire Total Energy.
La voix de Patrick Pouyanné, le patron de Total, c'était à la fin mai lors de l'Assemblée Générale de Total Energy aujourd'hui. Devant les actionnaires, pour notre débat du jour consacré donc à la finance verte avec mes invités, Julien Lefournier, auteur de L'illusion de la finance verte, le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers Benoît de Juvigny, la fondatrice de l'ONG Reclaim Finance et la responsable finance durable de Natixis, Aurite Azoulay. Julien Lefournier, vous posez une question juste avant la musique tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre sur ce besoin aujourd'hui de financement brun pour financer le vert.
Non, ma question, pardon Camille, ma question précise, c'était Total a annoncé que 100% de sa dette serait donnée dorénavant soutenable, selon le format que vous avez décrit. Est-ce que vous considérez que c'est un progrès ?
Ce que je crois, c'est que la finance verte, au sens large, elle a, par sa transparence, créé de la redevabilité. Et créer de la...
Ça veut dire quoi, pardon ?
La redevabilité, ça veut dire que maintenant, on conditionne de plus en plus nos investissements et nos financements. Je dis « on » au sens des investisseurs et des financeurs du secteur. Et la redevabilité, c'est le fait qu'on doit répondre.
C'est-à-dire, pardon, vous faites un peu des conditions. Au Natixis, vous allez dire à un investisseur, à quelqu'un qui a besoin d'argent, ok, on te donne de l'argent à condition que tu ne dépasses pas tant de émissions de gaz à effet de serre, etc.
En l'occurrence, le produit auquel fait référence, enfin la déclaration à laquelle fait référence Julien, c'est exactement ça. C'est je m'engage, enfin l'entreprise qui émet ce type de produit s'engage sous peine d'un coût.
D'une amende, d'une sorte d'amende.
C'est un surcoût.
Ouais, un surcoût, d'accord.
Une pénalité, si vous voulez.
Ouais.
À respecter un certain nombre d'objectifs. Alors évidemment, le diable est dans les objectifs. Où est-ce qu'ils sont? Quelles sont leurs ambitions? Évidemment. Et donc là, l'enjeu est d'être à la hauteur de l'urgence pour ces objectifs.
Quand on entend Aurit Azoulay ce que vient de dire Patrick Pouyanné, voilà, c'est une illustration de la situation actuelle. Il parle de rentabilité auprès des actionnaires et de dividendes. Il y a Lucie Pinson, un objectif aujourd'hui qui est toujours d'être rentable à court terme.
Payé par le pétrole, hein. C'est pour ça qu'on a du mal à réconcilier ça avec 100% de dette soutenable et les déclarations de Pouyanné qu'on vient d'entendre.
Lucie Pinson.
Un objectif d'être rentable et surtout il faut revenir sur, en effet, là on parle de dette, les entreprises en émettent de plus en plus, ce qu'on appelle climat ou durable, ce sont des nouvelles types de dettes, nouvelle génération de l'obligation verte, où là on n'est plus au niveau des projets, on est au niveau des engagements des entreprises. Mais ce n'est pas un petit débat de dire, il suffit du coup de faire en sorte que les objectifs de l'entreprise soient les bons, parce que bien entendu Total va être jugé sur les objectifs qui sont intégrés dans son plan dit climat, mais qui cache en réalité une augmentation de 30% de la production de gaz. Et donc là, on a un énorme problème, puisque on est dans la logique de dire, il faut accompagner les grands émetteurs, les grandes entreprises des énergies fossiles à se transformer, mais la réalité, c'est que la majorité des investisseurs, y compris de la place de Paris, les BNP, les Amundi du groupe Crédit Agricole, les également AXA, ont tous voté pour ce plan dit climat mis au vote des actionnaires en Assemblée Générale fin mai, alors que concrètement, derrière ce mot climat, là on est en plein marketing trompeur, on a une augmentation de la production d'énergie fossile.
L'autorité des marchés financiers dit quoi là-dessus, Benoît de Juvigny ?
D'abord, il faut aussi regarder, je dirais, le verre à moitié plein qui arrive. Avant, ces débats n'existaient pas en Assemblée Générale. Maintenant, ils existent en Assemblée Générale, les actionnaires peuvent se positionner.
Oui, sauf qu'à la fin, il y a eu 95% chez Total.
Les actionnaires vont voter en Assemblée Générale. Il se trouve qu'en Assemblée Générale, il y a un certain nombre de gens qui ont contesté et qui ont voté contre.
Une toute petite minorité.
Aujourd'hui, c'est une minorité. Mais les choses évoluent. Oui, mais si vous voulez prendre un exemple qu'en France, on n'a peut-être pas beaucoup vu, vous avez le plus grand pétrolier américain, Exxon. Il y a eu son Assemblée Générale il y a 2 mois. Il y a eu 3 administrateurs proposés par l'entreprise qui ont été virés et 3 administrateurs proposés par un activiste en faveur d'une plus rapide évolution climatique de la part d'Exxon, un des tout premiers pétroliers mondiaux quand même. Eh bien, ces 3 nouveaux administrateurs ont été validés. C'est la première fois que dans une société de ce type-là, une telle révolution se passe au niveau du board, au niveau d'un conseil d'administration de 12 membres.
Donc ce que vous dites, c'est que ça commence à bouger.
Les débats arrivent dans les sociétés françaises. On a eu 3 résolutions climatiques, par exemple, cette année, qui ont été proposées par 3 différentes sociétés du CAC 40. Vous pouvez trouver que les plans qui sont là sont plus ou moins satisfaisants. Je comprends tout à fait le débat et les critiques, mais ce débat progresse, il avance et il faut aussi le reconnaître.
Alors, en mars dernier, Lucie Pinson, 60 ONG dont la vôtre, Reclaim Finance, nous apprenait que 3 800 milliards de dollars, c'est absolument incompréhensible pour le commun des mortels, ça fait à peu près, je crois, 6 fois le budget annuel de la France, 3 800 milliards de dollars accordés par les 60 plus grandes banques du monde à des entreprises et à des projets liés aux énergies fossiles, donc que sont le pétrole, le gaz et le charbon, et cela depuis 2016, ça veut dire que c'était post-accord de Paris. Ça montre, ça, Lucie Pinson, à en croire ce rapport, que les choses bougent peut-être, mais en tout cas pas dans le bon sens toujours. Hein.
Non, du tout. On est même sur une augmentation des financements aux énergies fossiles et même aux entreprises qui développent de nouveaux projets d'énergie fossile. Donc des entreprises ne sont pas du tout en transition depuis que l'accord de Paris sur le climat a été adopté en 2015. Donc là, on n'est pas du tout sur une transition. Et là, on peut le retrouver aussi au niveau des acteurs financiers français, à commencer par BNP Paribas, qui est en 2020 est devenue la quatrième banque au monde à financer le plus les énergies fossiles. C'est peut-être pour faire un parallèle à la pub qu'on peut voir aujourd'hui dans les journaux français.
On va citer, parce que alors je crois que vous allez peut-être me confirmer, Aurita Zoulé, mais ce qu'on appelle le name and shame, c'est-à-dire citer les noms des banques et des organismes qui financent, c'est terrible pour l'image, et je suis désolée, donc on a parlé de la BNP, il y a le Crédit Agricole, il y a la Société Générale, il y a le Crédit Mutuel, et il y a Natixis et la Banque Populaire Caisse d'Épargne. Vous faites partie des banques qui ont le plus financé les énergies fossiles depuis 2016, des banques et des organismes.
Le financement des énergies fossiles, c'est un vrai sujet que je ne vais même pas commencer à discuter. Néanmoins,
c'est pourtant le cœur du sujet.
La pertinence de la question, bien sûr. Là, en l'occurrence, il faut quand même avoir en tête un certain nombre de choses. Il y a eu une sortie progressive du charbon au sein du groupe qui est en cours et décidée au niveau de la banque de grande clientèle et de l'assurance. Elle est en cours de déploiement chez un grand nombre, une grosse proportion de notre gestion d'actifs. Donc on est vraiment dans une logique qui est et dans une politique qui est tout à fait exemplaire.
Mais la question de la rentabilité qui est aussi majeure au sein du monde de la finance, le profit à court terme dont on parle beaucoup, Natixis comme les autres ne peut pas le mettre de côté. Il y a des actionnaires, il y a de l'argent à reverser. Du profit à se faire.
La réalité, c'est que...
Je dis ça parce que Julien Lefournier le disait tout à l'heure, excusez-moi, je complète. Aujourd'hui, les investissements dits verts ne sont pas rentables comme le sont les investissements dans les...
Si, alors
sont,
ça, c'est faux.
Pas aussi rentables.
Non, c'est pas ça. Non, j'ai dit le contraire tout à l'heure. J'ai dit le contraire, en fait. C'est ce qu'on me dit toujours, ah oui, mais la finance verte, finance éolien, oui. Mais enfin, il y a le rapport de la Cour des comptes de 2018 qui dit que l'État a mis 125 milliards sur l'éolien. C'est-à-dire que c'est l'argent public.
Mais alors attendez, vous dites que c'est aussi rentable, pourquoi alors il n'y a pas plus d'investissement?
Non, il n'y a aucun problème. Si vous voulez, on compte sur les pouvoirs publics, c'est l'argent public, pour faire en sorte que le titre soit rentable. Une fois qu'il est rentable, les financements se déversent. C'est pour ça que là, on a l'impression qu'il y a une contradiction. Il y aurait une finance verte et on comprend pas. En même temps, ils financent les nouvelles explorations d'énergie fossile. Mais ils financent ce qui est rentable. Vert ou brun, ça n'a aucune importance.
Sur ce que disait Lucie Pinson.
La finance est tout à fait cohérente.
Pourquoi il n'y a qu'une toute petite partie qui va vers les produits verts?
Parce que structurellement, c'est ce que j'expliquais, les projets verts, au départ, il y a un surcoût, donc ils ne sont pas rentables, donc il faut de l'argent public.
D'accord.
Et donc aujourd'hui, le rêve des investisseurs, c'est que l'État fasse, par exemple sur l'hydrogène, ce qu'il a fait pour l'éolien. Évidemment, les gens souhaiteraient s'engouffrer. Ça s'appelle rendre investissables les actifs.
Alors, Benoît de Juvigny, ensuite Lucie Pinson.
Non, mais je suis assez d'accord avec tout ce que vient de dire Julien à l'instant. Je crois qu'il ne faut pas trop attendre de la finance verte. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est quand même déjà des politiques publiques qui se traduisent par des réglementations, qui se traduisent par de la fiscalité, qui se traduisent par des outils économiques comme la mise en place d'un marché carbone. C'est essentiel. La finance verte ne va qu'aider, ne va qu'accompagner. Et à elle toute seule, s'il n'y a pas ces évolutions de politique publique, il ne faut pas en attendre trop.
Aurita Zoulé,
la finance verte n'a jamais supposé et encore moins fait la réclame d'être la solution unique et à elle toute seule des problématiques de changement climatique. C'est la première chose. La deuxième, c'est que un investissement vert n'est pas moins rentable, y compris quand l'État n'est plus dans l'équation. Et enfin, c'est des alliances une combinaison d'intervenants, y compris l'État, les financeurs, qui vont créer les conditions et qui créent les conditions de la rentabilité, comme vous le dites. Et la dernière chose, je dirais que sans finance verte, on n'aurait aucun outil aujourd'hui pour parler de tout ça. Sans finance verte, on ne saurait pas mesurer, on ne saurait pas, on n'aurait pas d'outils de transparence qui permettent justement de commencer à savoir piloter ces sujets-là pour l'ensemble des organisations.
Lucie Pinson. Alors oui, en effet, le problème, c'est surtout que c'est pas la rentabilité des projets verts qui le sont, c'est la rentabilité des projets bruns qui sont toujours rentables. Et donc l'illusion de la finance verte, c'est pas tant que la finance verte, il y aurait que du greenwashing et tout était acheté, c'est de laisser croire qu'on peut laisser les acteurs financiers seuls aux manettes et que tout seuls ils vont orienter leur financement vers les solutions. Et c'est là le problème, c'est que en réalité, il va falloir les réguler, parce que la régulation publique, c'est pas seulement les régulations en matière énergétique, c'est également la régulation des acteurs financiers, par exemple empêcher certains financements, et il va falloir les contraindre. Les politiques charbon qui ont été adoptées par les acteurs financiers français, notamment le fait que là, ils sont sortis de la gestion du risque pour aussi dire « je vais arrêter de financer des entreprises qui ne sont pas dangereuses pour moi », mais qui sont dangereuses pour l'humanité, donc les entreprises qui développent des nouveaux projets dans le secteur du charbon, ça c'est vrai, mais il a fallu 4 ans de campagne et de mobilisation avec des milliers de citoyens qui se sont mobilisés pour pousser les banques françaises à le faire.
On a justement un message de Fabrice sur l'application France Inter qui nous demande qui contrôle les engagements verts des acteurs financiers, est-ce un autocontrôle ? Et Julien Le Fournier, dans votre livre L'illusion de la finance verte, c'est ce que vient de dire Lucie Pinson, le problème c'est qu'il faudrait sortir de l'autorégulation de ces secteurs-là.
Oui, l'autorégulation, bon, c'est toujours le... D'ailleurs, c'est la proposition de la finance verte, hein, c'est toujours la même chose, c'est laissez-nous faire...
Vous voudriez quoi ? Qu'il y ait une régulation d'État ?
Du coup, la finance verte n'a jamais demandé qu'on nous laisse faire. On s'est ultra impliqué auprès des régulateurs pour que, justement, cet encadrement existe.
Ouais, plus ou moins. Hein. D'ailleurs, les obligations vertes, par exemple, elles sont autodéclarées vertes par l'émetteur. Enfin bon, c'est même pas une... Bon.
Et toutes les banques françaises sont opposées à l'établissement d'une taxonomie.
Benoît de Juvigny, pardon, on s'entend pas. Benoît de Juvigny.
Non, il y a un truc...
Je répondais à Julien en disant, c'est bien pour ça que nous militons depuis longtemps pour qu'il y ait une régulation sur ces obligations vertes et qu'elle est enfin en train d'arriver. Intermédiaire du schéma proposé la semaine dernière par la Commission européenne.
Vous avez raison, ça a pris des années.
C'est nouveau, ça a pris du temps.
La première obligation verte a été émise en 2008, on est en 2021, et on aboutit à peine à ces discussions-là. Donc vous avez absolument raison, la taxonomie c'est très important de se mettre d'accord sur ce qui est vert et pas vert, mais ça ne suffit pas pour la féconder, parce qu'aujourd'hui on s'approche de l'avoir, mais pour la féconder il faut autre chose. Et là, Benoît Juvigny avait absolument raison, d'ailleurs... Moi, je rencontre plein d'investisseurs responsables, hein, ils sont tout à fait responsables. Mais vous savez, quand vous gérez une dizaine de trillions d'euros, vous êtes obligé, vous pouvez pas choisir, votre ticket d'entrée, c'est 100 millions d'euros, vous pouvez pas choisir des petits projets. Vous êtes obligé d'être investi dans le monde dans lequel on est, les gens n'ont pas le choix. Et ils attendent quelque chose de l'extérieur. Faire croire que ça peut venir de l'intérieur de la finance, c'est un leurre absolu.
On a un message d'Axel sur Twitter qui nous écrit celle qui domine le monde actuel en parlant de la finance ne peut pas, c'est le néolibéralisme. Avant de faire de l'écologie, il aurait fallu changer de modèle économique. Est-ce que la finance, Aurit Azoulay, est prête à changer son logiciel ?
Bah, c'est justement ce qu'on a essayé de faire. Je pense, pour juste répondre à Julien, on ne parlerait pas de taxonomie brune, donc capacité à évaluer ce qui est brun, si on n'était pas passé par la taxonomie verte. Donc aujourd'hui, la porte est ouverte sur la taxonomie brune. Et chez Natixis, et au sein du groupe BPCE, on a lancé une initiative très ambitieuse et très granulaire qu'on a appelée Green Weighting Factor, qui est une sorte de bonus-malus interne qui va bonuser dans le processus d'octroi de crédit, les projets à bénéfice climatique et environnemental, malusser les
moins vertueux,
les moins vertueux, les plus bruns.
Mais ça n'a aucune...
Si je peux aller jusqu'au bout, pendant 2 ans, on a acculturé la banque à manipuler cet outil d'information supplémentaire en proposant justement des perceptions de nos financements additionnels. On vient d'annoncer nos objectifs et c'est le pilotage d'un budget, si vous voulez, de couleur que les différents métiers de la banque va devoir faire aujourd'hui pour atteindre des objectifs qui nous mettent sur une trajectoire d'alignement Paris.
Allez, la finance peut-elle être verte? C'est l'objet du débat de ce jour sur France Inter. Vous continuez de nous envoyer vos messages sur l'application France Inter, par mail et sur Twitter avec le mot-clé « débat de midi ». On revient tout de suite. Talk About It, c'était Jungle et Valentine Chedebois pour la programmation musicale.
France Inter. Le débat du midi. Camille Cronier.
Oui, on a mis un petit peu d'ABBA pour détendre l'atmosphère, hein, et essayer d'en être un petit peu plus généraliste. On parle d'argent aujourd'hui, on parle de finance surtout dans le débat de midi avec mes 4 invités. Aurit Azoulay, donc de Natixis, Benoît de Juvigny, secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers. Julien Lefournier, co-auteur et ancien de la finance, co-auteur de l'illusion de la finance. Il faudra nous dire d'ailleurs pourquoi vous avez quitté la finance. Et Lucie Pinson, fondatrice de l'ONG Reclaim Finance. Alors, on était en train de débattre juste avant d'entendre de la musique. Julien Lefournier, allez-y.
Oui, parce que je voulais rebondir sur ce que disait Aurit. D'abord, je voulais dire ce qu'elle disait sur la méthodologie interne à Natixis est intéressante. Mais ça
sur le bonus-malus voilà, dont on parlait.
Alors, il faut savoir que ça ne change rien réglementaire. Hein, c'est pas réglementaire. C'est-à-dire que la réglementation pour les banques toutes les mêmes, y compris Natixis, ne reconnaît pas cela. Et la question que je voulais lui poser, est-ce que vous seriez prêt à nous montrer votre méthodologie? Vous seriez prêt à la partager?
Alors, il n'y a aucun problème, puisque je l'ai montré à peu près toute la place. Donc la méthodologie, elle est ouverte à la démonstration. Lucie en a même eu une présentation. Donc aucun problème.
Merci.
Benoît de Juvigny, vous vouliez aussi rebondir tout à l'heure.
Oui, vous avez fait allusion aux engagements que prennent des grands gérants d'actifs, les grandes banques.
Le contrôle de ces engagements-là.
Ces engagements, avec mes collègues de l'autorité de contrôle des banques et des assurances, nous les regardons, nous les revoyons, et chaque année maintenant, nous publions là-dessus un rapport, et dans ce rapport, il y a des noms, et il n'y a pas que des bonnes notes qui sont données à tout le monde. Il est clair que ces engagements, souvent, sont pas précis. Souvent, ces engagements, il y a aussi des problèmes de périmètre. Comment est-ce qu'exactement, à quel périmètre ils doivent s'appliquer? Vous avez aussi des nouveaux outils qu'on développe. Par exemple, en matière de banque, il y a maintenant des stress tests climatiques.
Ils sont accessibles, pardon, à n'importe qui, parce qu'on a beaucoup de messages là d'auditeurs. On a Aldous qui nous écrit « J'aimerais connaître le meilleur choix de banque pour répondre aux enjeux ». On a Eric qui nous demande « Que pensait lui des banques historiquement plus « vertueuses » entre guillemets comme le crédit coopératif ? » Est-ce qu'il y a un classement ? Est-ce qu'il y a des outils pour que les gens aussi puissent savoir ?
Les autorités publiques ne peuvent pas faire de classement. Par contre, elles font de plus en plus de travaux qui sont publics. Et vous y avez tous accès. Ils sont sur les sites internet et devant, en les lisant,
ils sont compréhensibles, mais ils sont accessibles à quelqu'un qui ne s'y connaît pas.
C'est compliqué.
Ah, alors comment on fait? Alors, pardon, mais Lucie Pinson, il y a une marge de progrès à faire sur tout ça, pour que les gens qui ne sont pas tous des experts puissent quand même comprendre certaines choses.
Ça, parce que l'accessibilité, ce n'est pas seulement les mettre en ligne, c'est bien entendu les rendre lisibles pour le grand public et des gens qui ne sont pas experts de la finance, alors que c'est très technique, souvent, ces rapports-là. Mais je voudrais revenir sur ce que Benoît disait tout à l'heure concernant l'engagement actionnarial qui, quand même, se développe et serait une solution au problème actuel. Et en effet, aux États-Unis, il y a eu des initiatives intéressantes sur l'entreprise Exxon ou également Chevron, où là, les actionnaires ont pesé pour pousser les entreprises à faire plus sur le climat. Malheureusement, on peut poser la question, comment se fait-il que les mêmes actionnaires, parce que c'est les mêmes actionnaires partout dans le monde, ont voté pour cela, pour le climat, aux assemblées générales des majeures pétrolières et gazières aux États-Unis, et pas pour le climat à Shell ou à Total, où ils ont voté pour des plans qui acceptent l'augmentation des énergies fossiles? Eh bien, nous, notre analyse, c'est très cynique, vous allez dire, c'est que contrairement à Shell et Total, Exxon et Chevron aujourd'hui ne font même pas semblant. Ils n'ont pas ponctué leur rapport du mot climat, ils ne se sont pas développés dans les énergies renouvelables, ils n'ont pas adopté d'objectifs de décarbonation, quand bien même ces objectifs.
Donc ils assument le brin à fond.
Ils assument le brin à fond. Et ce qui du coup est très embarrassant pour les acteurs financiers, y compris européens, parce que du coup ils ne peuvent pas vendre l'histoire. Nous voulons soutenir une entreprise qui est en transition, parce que là, de manière très flagrante, elles ne le sont pas. Donc notre analyse, c'est que dès lors que Exxon et Chevron se seront alignés sur du Total et d'échelle qui n'apportent absolument pas les solutions, eh bien là, il y aura une excuse pour maintenir les investissements et les financements, et on le voit en France, puisque le rapport publié en mars montre que si les banques françaises augmentent leur financement aux énergies fossiles, c'est des financements aux majors pétrolières et gazières que je viens de nommer.
Aurit Azoulay, puisque vous faites partie des banques.
Pour revenir sur les questions de vos auditeurs, ce que je peux dire sur le... Je dirais les banques de détail, puisque j'appartiens au groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, c'est qu'il y a aujourd'hui tout ce que je vous décrivais qui a été développé effectivement au niveau de la grande clientèle, des grands comptes, qui est en train de se déployer avec un engagement qui a été pris par les banques populaires et les caisses d'épargne à l'horizon 2024 d'avoir une évaluation sur chaque financement qui permettra et qui permettra aux épargnants de non seulement savoir à quoi sert leur argent?
Oui, parce
que où est-ce que ça va?
On a un message de Marie, justement, qui nous écrit vendredi dernier sur l'application France Inter. J'ai eu rendez-vous avec la caisse d'épargne pour parler placement. J'ai explicitement demandé des placements verts. Il a été très dur, voire impossible pour mon conseiller de me montrer les garanties des placements qu'il avançait. J'ai été très déçue et de ne pas être mieux accompagnée alors que défilait sur l'écran géant à l'entrée de l'agence des publicités pour des investissements verts. Ça, c'est des réalités de terrain, Aurit Azoulay. Alors, comment on fait?
Je vais évidemment pas répondre du conseiller en particulier.
Mais c'est pareil avec n'importe quel conseiller aujourd'hui.
Ce qui est sûr, c'est que le besoin impérieux au niveau des banques de détail auquel notre groupe essaye de répondre, c'est justement la formation. Parce que les produits existent, les garanties existent.
Mais pour, pardon, mais pourquoi on attend 2021, ça,
Benoît? Ça fait des années que c'est engagé.
Benoît de Juvigny, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, à la mi-2021, c'est toujours pas, aujourd'hui, il y a des formations et il n'y a aucun conseiller dans les banques qui peut vraiment conseiller comme son métier l'indique.
Le mouvement est quand même en marche. Ce qui se passe, c'est quand même l'évolution est quand même considérable. Là aussi, ça vient peut-être lentement. Vous avez par exemple au niveau européen, là aussi, ce qu'on appelle une pour découvrir les besoins des clients, on va rajouter une dimension ESG, environnementale, sociale ou gouvernance, qui va être obligatoirement rajoutée dans la découverte des besoins des clients. Et à côté, vous avez maintenant dans les fonds d'investissement des produits qui disposent de labels. Et dans ces labels, vous avez toute une hiérarchie, mais par exemple, le label le plus vert entre guillemets en France, c'est le label Greenfin. Il y a 62 fonds labellisés, 17 milliards d'euros collectés
aujourd'hui. Et ça, on peut demander.
C'est quelque chose qui existe dans les réseaux bancaires et que vous pouvez demander facilement.
Rapidement, Julien Lefournier, sur les labels.
L'ISR, par exemple, parce que les gens...
C'est quoi l'ISR?
L'investissement socialement responsable.
En France, vous avez deux grands labels. Le label Greenfin, c'est le plus vert, entre guillemets, et le deuxième label public, c'est le label ISR, voilà, dont Julien parle.
Voilà. Alors déjà, il n'y a pas beaucoup de fonds qui ont le vrai label ISR. Il y en a qui se déclarent...
Il y en a de plus en plus.
Oui, il y en a de plus en plus, mais il y en a qui se déclarent fonds socialement responsables, mais qui n'ont pas le label, ce qui est déjà un tout petit peu contraignant. Mais il faut prendre un peu de recul pour répondre à l'auditeur. Qu'est-ce que c'est l'investissement responsable mainstream, hein? Bon, oui. L'idée, c'est vous êtes en compétition avec les autres, hein, donc c'est toujours et en même temps, c'est de maximiser les rendements et en même temps, c'est de sauver la planète. Mais on a vu que ça marchait pas a priori. Et donc en fait, 90% de ces fonds, conservent la majorité de l'univers investissable. Donc vous retrouvez Total dans plus de 90% de ces fonds-là, vous avez Total. Pourquoi? Parce que Total, c'est une belle boîte, donc ils ont un rating ESG simple A, c'est une belle note, et donc vous les retrouvez. Donc, il n'y a pas les exclusions. En plus, vous prenez un fonds d'action. Qu'est-ce que ça fait, un fonds d'action? L'émission de nouvelle action dans la vie d'entreprise, c'est très rare.
Alors,
donc, en fait, vous avez 99%, c'est des flux secondaires. Vous ne financez pas une entreprise avec des flux secondaires. Vous rachetez des titres à d'autres investisseurs. Donc, vous voyez, le discours qui est vendu ne colle pas du tout avec la réalité. Donc, si je reprends le cas de votre auditeur qui dit, je vais voir un conseiller, je lui dis, j'ai 100, je vais mettre 100 dans un fonds. Y a aucun fonds qui est capable de montrer que ces 100-là, ça fait une réduction des émissions de CO2. C'est complètement impossible, en fait, avec le système.
À vous entendre, hein, pardon, je me mets à la place là, de tous les auditeurs. On a l'impression, comme vous le dites, Benoît Juvigny, que les choses bougent, mais c'est pas clair aujourd'hui. On a l'impression qu'il y a énormément de choses à faire. En un mot, Lucie Pinson, je vais vous demander à chacun d'entre vous très vite. Quelle est la priorité aujourd'hui, pour avancer?
Que le régulateur français, au lieu d'appeler tous les ans au Climate Finance Day français, donc là je parle de Bruno Le Maire, hein, du ministère de l'économie et des finances, au lieu d'appeler la finance à se verdir toute seule, il pourrait contraindre les acteurs à arrêter de financer certaines activités directement et les entreprises qui se développent dans ces activités de manière à ce qu'on ne les retrouve pas dans les fonds vendus aux clients.
Aurita Zoulé, très vite.
La priorité principale pour moi, c'est de savoir identifier, supporter, inciter et contraindre la transition. Et pour ça, les banques ont leur rôle à jouer, et le régulateur également.
Et les citoyens aussi, les consommateurs. Benoît de Juvigny.
Il y a une énorme évolution qui est en cours. Il y a de plus en plus de transparence et de choses qui vont permettre aux entreprises, aux investisseurs, aux actionnaires de se positionner. Ça prend du temps. Il faut accélérer. J'en ai conscience, mais le mouvement est vraiment en marche.
Et enfin, Julien Lefournier.
Donc, le marché n'a aucune vocation écologique. Et donc, moi, je rejoins complètement Benoît. Il faut que la contrainte vienne de l'extérieur. C'est des normes, des interdictions, de la fiscalité. Hein. Et là, il faut, pour la transition, il faut défavoriser le brun pour favoriser le vert. Ça doit être endogène à la finance. Il y a des choses à faire.
Et la finance, donc, vous l'avez quittée il y a combien de temps?
4 ans.
Vous voulez pas y retourner?
Non.
Allez, dernier mini débat du jour. C'est sur Twitter. Cigale ou fourmi? Qu'est-ce que vous me répondez? Vite, cigale, fourmi. Aurita Zoulé.
Fourmi.
Cigale ou fourmi?
Fourmi.
Ok. Benoît de Juvigny. Oh, 50-50, c'est le résultat de Twitter, Julien Lefournier.
Fourmi.
Allez, et Lucie Pinson?
Fourmi.
Bon, bah c'est 50-50 de toute façon. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé.